Les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 5h en temps universel. Les autorités du Niger ont décidé lundi de l'élargissement de l'état d'urgence à la localité de Kouré, au sud-ouest du Niger, théâtre d'une attaque dimanche, au cours de laquelle 8 personnes, dont 6 humanitaires français, ont été tués. L'état d'urgence est déjà en vigueur dans la région de Diffa, dans le sud-est, proche du Nigeria, théâtre d'attaques récurrentes de Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, issu d'une scission de Boko Haram. Plus de 2 millions de nouveaux électeurs burkinabés se sont inscrits sur les listes électorales entre janvier et le mois de juillet, ce qui pourrait porter à 7,8 millions le nombre total d'électeurs pour les scrutins législatifs et présidentiels de novembre, a annoncé lundi la commission électorale burkinabé. Ces chiffres devront être consolidés après les contentieux sur les listes électorales et additionnés aux quelques 5 517 015 électeurs inscrits pour les scrutins de 2015. La principale coalition d'opposition au Zimbabwe a affirmé lundi qu'il lui avait été interdit de rencontrer 2 émissaires sud-africains venus à Harare pour évaluer la situation chez son voisin, où la répression des opposants s'est récemment accentuée. Les envoyés spéciaux de Pretoria ont rencontré le président Emmerson Mnangagwa et les dirigeants du parti au pouvoir, la ZANU-PF, mais les dirigeants de l'alliance formée autour du principal parti d'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique, MDC, ont affirmé ne pas avoir pu rencontrer les émissaires. En RDC, les écoliers étudiants ont en partie repris le chemin des classes lundi, après la fin de l'état d'urgence pour lutter contre la pandémie de nouveau coronavirus. À Bukavu, par exemple, chef-lieu du Sud Kivu, dans l'Est, une marche de protestation des enseignants a été dispersée par des tirs de sommation et de gaz lacrymogène de la police. Les enseignants de Bukavu reprochent au gouvernement de ne pas avoir respecté son engagement d'harmoniser leur salaire. La rentrée ne concernait pas non plus lundi. Les élèves ne concernaient que les élèves de dernière année du primaire et du secondaire, ainsi que ceux en cinquième année à l'université. Le premier ministre libanais Hassan Diab a annoncé lundi la démission de son gouvernement 6 jours après l'explosion meurtrière qui a détruit une partie de Beyrouth et a ravivé la colère de la population. Mamadou Oumfa nous en dit plus.
Le premier ministre Hassan Diab est apparu à la télévision nationale à 16h30 GMT pour annoncer sa décision de rendre la démission de son gouvernement. Une décision qui est intervenue après celle des ministres de la Justice, de l'Information et de l'Environnement. Depuis la double explosion le 4 août dans un entrepôt du port de Beyrouth qui a fait au moins 160 morts, plus de 6000 blessés, détruit une partie de la capitale et fait près de 300 000 sans-abri, des centaines de Libanais manifestent dans les rues. Ils accusent les autorités de corruption, de négligence et d'incompétence. Le pouvoir libanais n'a toujours pas répondu à la principale question de savoir pourquoi une énorme quantité de nitrate d'ammonium était entreposée au port au beau milieu de la ville. Le président Michel Aoun, de plus en plus contesté, a rejeté l'idée d'une enquête internationale et aucune information n'a été communiquée sur le déroulement de l'enquête locale. Malgré l'annonce de la démission du Premier ministre, des heurts étaient toujours signalés autour du Parlement.
Le Conseil de sécurité de l'ONU se prépare à voter cette semaine sur une proposition des États-Unis de prolonger l'embargo sur les ventes d'armes à l'Iran, une démarche que certains diplomates considèrent vouée à l'échec et qui pourrait fragiliser davantage l'accord sur le nucléaire iranien, une tentative de dernière minute menée par la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne pour obtenir un compromis avec la Russie et la Chine sur une extension de l'embargo sur les ventes d'armes est restée vaine jusqu'à présent. Selon des diplomates alliés de l'Iran, la Russie et la Chine ont exprimé de longue date leur opposition au projet de résolution transmis par les États-Unis. Et puis ici aux États-Unis même, le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il était intéressé par l'idée d'accueillir le sommet du G7 dans une atmosphère plus calme après l'élection présidentielle de novembre. Et il a indiqué ne pas avoir décidé s'il allait ou non convier son homologue russe Vladimir Poutine. En mai, alors que la pandémie de coronavirus était propagée, Donald Trump avait reporté le sommet qu'il espérait organiser en juin. Il avait précisé que le sommet n'aurait pas lieu avant septembre et qu'il espérait étendre la liste à des invités pour y inclure l'Australie, la Russie, la Corée du Sud et l'Inde. Le prochain journal, c'est dans 25 minutes avec Idrissa Seydou Dia tout à l'heure.